On leur dit ou pas?
Allez, on vous le dit. On a reçu une vidéo de fou! Truc de fou, écoutez.
Les amis, bonjour. Ici Jean-Luc Mélenchon. C'est pour vous donner un défi à ouvrir les guillemets, Cotentin et Ursule. Si vous faites une vidéo qui dépasse les 100 000 vues sur l'islamo-gauchisme, je m'engage à me présenter à l'élection.
Non, c'est déjà fait, Jean-Luc, ça.
Oui. Alors, je fais...
C'est noté en dessous.
Un Gartic Phone sur Twitch. Qu'est-ce que c'est que ça, Antoine?
C'est pour Internet.
Non, mais qu'est-ce que c'est? Comment on coupe? On refait tout.
Bon, qu'est-ce qui se passe là? On se barre en vacances une semaine, on revient et tout part à volo?
Bah ouais, à Lyon, les enfants sont privés de viande.
Macron qui va faire le cake chez McFly et Carlotta?
Non, Carlito.
Eh bien, pour moi, vous serez toujours Carlotta. Carlotta.
Mais le meilleur débat de merde de ces dernières semaines, c'est dans toute la société, hein, vous le savez, vous l'avez vu, vous êtes dans la société, vous. La gangrène de l'islamo-gauchisme qui gangrène...
Toute la société.
Oui.
Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable. L'université fait partie de la société.
Alors, on a déjà parlé d'islamo-gauchisme ici.
Avant que ce soit cool.
Avant que l'attaque se précise, en tout cas. Souvenez-vous, à un moment, c'était très vague, hein, ces notions. Même Macron avait été accusé d'être lui-même une sorte de vermine gangrène séparatiste, là.
Dans sa campagne, il avait été traité lui-même d'islamo-gauchiste par un, dans le journal du dimanche, me semble-t-il, par un élu fioniste.
Tout le monde peut ou sera traité d'islamo-gauchiste. Oui, ça ne signifie pas que le terme, encore une fois, ne désigne aucune réalité. Je continue mes différentes lectures. Cette fois-ci, c'est un article du Figaro, signé Vincent Trémolet-Villers.
Quand la polémique s'est précisée et s'est concentrée sur les universités, avec le soutien de la ministre de l'Enseignement supérieur, France Culture était en ébullition. Normal, c'est la radio des universitaires et beaucoup d'émissions ont donc été consacrées à la chasse aux islamo-gauchistes. Comme vous venez de l'entendre, Guillaume Herner, l'animateur de la matinale, s'est fait le relais des inquiétudes de certains quant à la prédominance des études de genre, décoloniales, intersectionnelles. De toute façon, tout ça, c'est pareil, c'est de l'islamo-gauchisme.
Tout le monde faisait semblant de croire que le débat portait sur la qualité des recherches menées. Hein. C'est sérieux, c'est pas sérieux, c'est militant, c'est pas militant.
Et sur France Culture, qui est une radio sérieuse, on a consacré beaucoup d'énergie à essayer d'y voir plus clair.
Sylvain Bourmeau anime la suite dans les idées sur France Culture et même lui s'est étonné que son collègue, Guillaume Herner, donne du poids et du crédit à des tribunes du Figaro quand la communauté scientifique entière essayait de contrecarrer cette nouvelle charge contre le monde universitaire.
Je suis journaliste spécialisé en sciences sociales. C'est ce que je fais depuis 30 ans. Et comme journaliste scientifique, ok, je peux lire l'avis de monsieur Vincent Trémolet-Villers dans le Figaro, mais quand j'ai sous les yeux les communiqués d'institutions scientifiques, c'est important les institutions. Comme journaliste scientifique, comme passeur, j'ai plutôt tendance à, je dirais, prendre avec beaucoup de sérieux les communiqués de ces institutions qui engagent énormément de gens.
C'est intéressant d'observer à quel point la communauté scientifique a fait front, c'est même plutôt rassurant.
Oui, et ça alors même qu'on sait qu'elle est traversée par des débats assez vifs hein, sur ces questions de race, de classe et de genre.
Et c'est normal, le champ académique est traversé de débats, il l'a toujours été, et c'est dans la controverse scientifique que se produisent les connaissances.
Pierre Bourdieu faisait la même remarque par rapport aux cultural studies il y a longtemps. Il était très sévère avec les cultural studies parce qu'il trouvait que la méthode des sciences sociales, celle qui est dans le métier de sociologue, pour aller vite, elle avait un peu disparu et que un certain nombre de travaux scientifiques pouvaient parfois manquer de rigueur. Aujourd'hui, il faudrait qu'on ait ce débat. C'est un débat extrêmement important. Il faudrait l'avoir sans qu'il soit brouillé.
Et là, le problème, c'est que les politiques sont venus brouiller le débat. Parce que les élections approchent, parce que les discours d'extrême droite progressent dans la classe dominante, mais on y reviendra.
En tout cas, une chose est claire, que les universitaires travaillent sur des objets politiques, c'est normal. Que les universitaires aient eux-mêmes des opinions politiques, c'est normal. Tout le monde a des opinions politiques. Mais que les politiques, ceux qui sont au pouvoir, se mêlent des enseignements et des recherches auxquelles ils ne comprennent de toute façon rien, ça c'est inquiétant.
Bah oui, études postcoloniales, décoloniales, intersectionnalité, ils sauront pas vous expliquer ce que c'est. D'ailleurs, je pense que vous demandez à un politique une définition, ils seront incapables de vous en sortir une.
Oui, mais même la fac, ils savent pas ce que c'est, ils y sont pas allés, puis ils n'envoient pas leurs gamins.
Au fond, les femmes et les hommes politiques ont fait des études, bien entendu, souvent en dehors de l'université d'ailleurs, et n'ont qu'une idée extrêmement vague de ce qu'on appelle la recherche universitaire. Et donc, ils se représentent cette recherche d'une manière souvent très caricaturale. Et
donc, ils se positionnent sur des débats internes aux sciences sociales.
Mais ils s'en tapent des sciences sociales.
Ah bah non, là manifestement c'est leur nouvelle passion. Hein. Tu leur dis Max Weber, ils disent super, j'ai adoré les fourmis, mais maintenant la socio, ça les passionne.
Non mais peut-être que c'est pas vraiment ça qui les obsède vraiment au fond.
Non.
Est-ce que la ministre ne sait pas de quoi elle parle? Ou bien est-ce qu'elle sait qu'elle ne sait pas, mais que finalement, peu importe. Au fond, dire n'importe quoi, ça a une fonction politique.
Alors pour quelle raison est-il si important de faire taire ces chercheuses et ces chercheurs qui travaillent sur ces questions d'inégalité, de discrimination, etc.
Bah déjà, c'est bientôt les élections, donc les taxer d'islamo-gauchisme, ça permet d'amalgamer toute une partie de la gauche qui serait alliée avec les ennemis de la République.
Les Arabes.
L'islam, l'islamisme.
L'islamisme politique des Arabes.
Un exemple parmi d'autres, ce député LREM qui parle d'une France insoumise, compromise avec Anas Kazi, Bouta, Bouaf, qui n'ont jamais défendu l'islamisme politique. Hein.
On vous épargne les balles perdues que se prennent Daniel Obono, Rokhaya Diallo, Omar Sy, Camélia Jordana, Medine, Assa Traoré.
Quel est le point commun entre toutes ces personnes? Parce que moi je suis républicain, je vois pas les couleurs et ces attaques me semblent sans aucune cohérence.
Mais oui, bah, pour moi pareil, on peut être bleu, jaune, violet.
Ne nous y trompons pas, si les plateaux télé ou radio se sont remplis d'universitaires blancs ces dernières semaines, ils n'étaient pas la cible principale de cette nouvelle offensive, et ce ne sont pas eux qui vont en souffrir le plus.
Et c'est pas nous non plus qui sommes visés, ni vraiment Edoui Plenel, ni vraiment les universitaires, c'est pas vraiment eux qui leur font peur. Ce qui leur fait peur aux réactionnaires, au gouvernement, c'est ce qui est en train de se passer dans toute la société. La gangrène.
Il y a eu une grande frayeur récente en France, c'est George Floyd.
Oui.
George Floyd, c'est une émotion mondiale, mais restons en France, personne ne s'attend à ce que ce qui s'est passé là-bas suscite chez nous un débat autour de Colbert, par exemple. Et beaucoup de gens ont eu l'impression qu'à ce moment-là, des Noirs, des Arabes, des islamistes prenaient en main le débat public et cherchaient à culpabiliser la France.
Ici, Apathy parle de l'affaire George Floyd, mais on pourrait aussi parler de MeToo. De vieux paradigmes sont remis en question par une jeune génération qui émerge à peine.
Les hommes ont raconté l'histoire pendant 20 siècles. Et aujourd'hui, ils s'étonnent que des femmes, moins, oui. Un, veulent raconter l'histoire, mais deux, veulent être dans l'histoire. Alors leur dit, eh, Coco, c'est normal, vous êtes battus pour qu'elles n'y rentrent pas, mais à un moment, elles y rentrent. Et bien, c'est la même chose sur ce qu'ils appellent les minorités. Pour eux, il est illégitime que ceux qui étaient de l'autre côté du miroir de la domination se mettent à parler du bon côté du miroir. Mais vous n'imaginez pas à quel point ça leur donne des faits vertes, hein. Ils sont totalement angoissés.
Et ces analyses qui pointent du doigt les discriminations de toutes sortes, elles sont produites où?
Sur Mediapart.
Oui, mais pas seulement. Ces discours souvent militants, ils sont légitimés quand ils sont objectivés, travaillés, enseignés par des universitaires. L'université est un espace qui sert à alimenter le débat public, y compris en discours critique. Et ça, ça inquiète les dominants.
Les dominants s'inquiètent qu'on parle de domination. Est-ce qu'il faut en être étonné?
Non. Éric Fassin.
On voit de nouvelles générations de chercheuses et de chercheurs, dont une partie sont racisés. Et qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit « taisez-vous ». Tout le monde est prêt à accepter l'idée qu'il y a des minorités raciales dans les banlieues, dans les quartiers, dans les cités, parmi les classes populaires, dans le prolétariat, etc. Lorsque on a des gens qui sont en position de sortir de cette catégorie, ces personnes racisées, on considère qu'elles ont le droit d'être là, mais à condition de ne pas contester l'ordre du monde.
Et devinez par où sont passés beaucoup des gens qui ont eu un parcours de transfuge de classe. C'est-à-dire qu'il y avait des parents balayeurs, ouvriers, femmes de ménage, mais qui ont réussi à sortir leurs conditions sociales d'origine. Devinez par où ils passent.
Ah, ils ont tenté le concours de l'ENA.
Eh ben non, ils vont à la fac, ils vont à l'université publique, parce qu'on y a le droit quand on a le bac, et parce que c'est gratuit.
Les universités, c'est 28% hein, d'étudiants qui sont issus des classes populaires. C'est beaucoup, avec des étudiants qui accèdent à des niveaux de diplôme, qui accèdent à des emplois de catégorie intermédiaire ou supérieure ensuite.
Et quand les dominés accèdent au savoir académique, en produisent eux-mêmes, il n'est pas absurde qu'ils se penchent précisément sur les dominations qui les ont touchés eux et qui ont écrasé leurs parents, et donc qu'ils produisent du savoir critique. C'est logique.
C'est dans les universités qu'il faudrait investir pour alimenter l'ascenseur social.
C'est ce que moi je souscris entièrement. C'est fondamental, Stéphane, ce que vient de dire Mathias Millet, parce que finalement c'est un peu l'impensé des politiques sur l'université. C'est-à-dire qu'on pense l'université tout le temps à partir de ses problèmes, mais on ne voit pas que historiquement l'université a été un outil très important de promotion sociale.
Donc en s'attaquant aux universités sous prétexte qu'elles produisent des islamo-gauchistes, on s'attaque en fait à deux choses. Un lieu de production de la pensée critique et un lieu de promotion sociale des minorités.
Pas que... Je vais faire le Gérard Noiriel un peu. Pas que des minorités, quand même, de toutes les classes populaires en général.
tout ça se joue sur, sur le lit déjà d'une, de difficultés à l'université par, par manque d'investissement dans l'université. Hein, je voudrais juste rappeler que les universités ont dû accueillir 30 000 étudiants, c'est-à-dire l'équivalent d'une université complète à moyen constant. C'est-à-dire on crée une université supplémentaire sans donner un copec en fait aux universités. Et chaque année, ça se répète. Et donc, pour vous donner un exemple, dans mon département, entre 2014 et aujourd'hui, on est passé de 500 étudiants à 1000 étudiants, avec le même nombre d'enseignants-chercheurs.
Que le lieu de promotion sociale par excellence qu'est la fac soit attaqué de la sorte, c'est quand même assez significatif.
C'est pas attaqué de n'importe comment, en plus. On attaque les sciences humaines précisément en utilisant un discours raciste.
La société française est dans un tel état de crispation identitaire qu'une polémique aussi minable, une polémique qui amalgame les étudiants et les chercheurs à des terroristes, quasiment. Des trucs aussi absurdes, ça passe, c'est repris partout.
Et c'est repris n'importe comment, tout est amalgamé, études décoloniales, écriture inclusive, les suppliantes d'Eschyle, la cancel culture, un frisson d'angoisse parcourt le petit monde intello. Et ça va très loin parce que pour disqualifier ces paroles émergentes et leur grille d'analyse, on n'hésite pas à afficher sur LCI des sujets de thèse.
La cosmovision amérindienne de l'expérience corpo-spirituelle et épistémique existentielle comme levier de transformation sociale et politique, de la promotion de la santé, autobiographie raisonnée d'un parcours décolonial entre la Colombie et la France. Je reprends mon souffle. Qu'est-ce que ça vous, qu'est-ce que vous inspire, Rachel Kahn ?
Beaucoup de Colombiennes dans le sujet.
Ah, trop marrant, j'ai rien compris, c'est que ça doit rien vouloir dire. En plus de vouloir procéder à une épuration politique des universités, on cultive à présent dans les élites françaises cet anti-intellectualisme ricanant, tout droit importé de l'alt-right américaine.
Non, parce qu'en fait, l'intersectionnalité, c'est ce que disait Coluche. Vous savez, on est tous égaux, mais pour les petits, noirs et moches, c'est plus dur que... Bon, enfin bref. Bon, donc, c'est pas, il n'y a pas besoin de concept universitaire pour comprendre ça. Hein. Coluche nous l'avait bien dit il y a quoi, 20 ans, 30 ans,
ouais, plus que ça.
Bon, vous savez, quand on est vieux comme moi, on n'a plus la notion du temps. Bon, bref.
Il n'y a pas besoin de concept universitaire, il n'y a pas besoin de sociologue pour comprendre la société. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous emmerde, cela ? Ce qui est intéressant, c'est la dernière partie de ce que cette dame vient de dire.
Vous savez, quand on est vieux comme moi, on n'a plus la notion du temps. Bon, bref.
Une ancienne génération est en train de perdre la main, sa vision du monde est bousculée, ses positions sociales le seront aussi, et elles seront bousculées parce qu'on nomme enfin des dominations qui étaient jusque-là invisibles. En donnant du crédit à cette panique réactionnaire, Vidal a ouvert la boîte de Pandore. Ses attaques sont maintenant relayées, et ce jusqu'à la matinale de France Culture où Guillaume Erner a tellement insisté sur les arguments des détracteurs de l'université qu'on pourrait se demander s'il ne se sent pas lui-même menacé par ses discours.
Privilège blanc, ça existe ou pas, Stéphane Beau ?
Alors... En face de lui, il a essayé de trouver du soutien chez Stéphane Beau, qui avait en effet publié avec Noiriel un bouquin très critiqué qui s'inquiétait de la prédominance de la variable raciale dans les projets de recherche en sciences humaines. Guillaume Erner essaye donc de rabattre les positions des deux chercheurs sur celles des ministres de Macron ou des agités des plateaux d'LCI et de CNews, en vain.
Ce qu'on essaie de dire, tout
obsédé
simplement...
Obsédé par la race. Est-ce que Jean-Michel Blanquer, finalement, ne dit pas la même chose
non,
que vous ?
Non, ce qu'on essaie de dire, nous, on se situe dans le champ des sciences sociales. Ce qu'on essaie juste de
bien
dire...
Bien sûr, Stéphane Beau, mais non, juste mais... sur ce point,
mais
est-ce
non,
que...
Je
ne
vais pas te comparer,
La confusion est donc totale pour nos élites paniquées, mais il peut être rassurant de voir qu'à part Guillaume Erner et quelques chercheurs dont les sciences humaines ne sont pas le cœur de métier, le monde universitaire s'est défendu avec vigueur contre cette tentation du politique de mettre au pas la recherche et l'enseignement, comme l'a fait Victor Orban. Attenter aux libertés académiques, c'est en effet faire un pas important vers la démocratie illibérale à la hongroise, et il était primordial de réagir avec vigueur contre ce genre d'attaque.
En attendant, Vidal démission,
Darmanin démission,
Schiappa démission,
Blanquer démission,
Macron démission,
tout le monde démission.
À lundi prochain.
Je me pose des questions sur Frédérique Vidal. Est-ce qu'elle est complètement bête ou est-ce qu'elle est complètement d'extrême droite ?
Ah bah, c'est compliqué, hein. Il y a des éléments de réponse dans le canard enchaîné. L'histoire est quand même assez marrante. Elle s'est fait engueuler par Macron, parce que Macron lui a dit quand même, les étudiants c'est chaud, machin, il y a d'autres problèmes que l'islamo-gauchisme, arrête avec ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Une interview dans le JDD. Elle a dit, c'est pour calmer les choses, machin, sauf qu'elle calme pas du tout les choses dans l'interview. Et l'interview a été relue par l'Élysée. L'Élysée a dit, mais elle calme pas du tout les choses, mais ils avaient pas le temps de la changer. Donc elle est parue telle qu'elle. Donc en fait, elle a refoutu 10 balles dans la machine. Puis ensuite, elle a dit, bon, bah alors pour calmer les choses, je vais aller sur RTL dans la matinale. Puis en fait, elle entretient le truc à essayer de le calmer, mais en fait, elle l'entretient.
Du coup, j'ai la réponse à ma question.
Donc elle est bête ou d'extrême droite, du coup ?
Bah, les deux.